un petit bonhomme. Ouais.
Voilà, allez, c'est Tribune Foot, dernier de la saison, hein, parce que c'est le dernier club qu'on reçoit ce matin pour la saison, mais rassurez-vous, on continuera à parler foot les deux prochains dimanches dans Tribune Sport avec Jean-Paul Le Guerchois qui non seulement est venu nous parler de la semaine de l'Euro, mais aussi du FC Drouette. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Pas trop la gueule de bois comme nous, samedi matin.
Non, oui, c'est vrai que je reste...
Pas la gueule de bois, c'est la déception.
Ouais, évidemment, complètement déçu, mais ouais, ouais. Et je le suis en plus aussi par mon équipe.
Ah, d'accord, donc on en parlera... Donc,
ça fera deux déceptions.
Un qui est à la fois déçu et content, déçu par la prestation de l'équipe de France, content de sa belle journée d'hier, c'est notre ami Bibi Moreau. Bonjour Bibi.
Bonjour Philippe.
Hein, toujours fidèle au poste.
Oui, toujours, toujours.
Mmh. Et puis nos amis donc du rugby qui vont aussi parler ballon rond ce matin.
Ouais, non, nous on n'en parlera pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est.
Alors auparavant quand même, bon allez, on va encore un tout petit peu parler quand même du championnat. Il y a le top 14 qui arrive dans sa phase la plus importante, messieurs, puisque le championnat sur donc la saison régulière est terminé depuis hier. Donc demi-finale la semaine prochaine, ça sera donc Clermont qui a toujours été pratiquement en tête du championnat contre Perpignan, et puis Toulouse donc finaliste de la Coupe d'Europe contre le Stade Français. Quelle finale peut-on envisager? On a souvent des résultats un peu différents du championnat régulier.
Oui, mais enfin là je pense que
c'est Clermont-Toulouse, c'est la finale.
Ouais, je pense que ça peut être la finale annoncée
pour le Stade Français.
Bien que, comment dirais-je, le Stade Français nous a toujours surpris en revenant du Diable Vauvert à chaque fois. Hein, c'est vrai qu'ils font leur petit bonhomme de chemin, mais par contre, en finale, c'est toujours le Stade Français qui gagne ces dernières années.
Ils ont perdu deux fois les finales, oui, en 2005, enfin, bon, ils ont perdu la Coupe d'Europe et le championnat la même année. Hein.
Tout à fait, mais enfin bon, quand on fait le bilan quand même sur les 10 dernières années, ils sont souvent allés au bout. Je crois que cette année, il y a un épouvantail quand même qui mériterait, je crois, sur l'ensemble... Pour l'ensemble de sa prestation, de ses prestations, ouais. Je dirais, c'est Clermont qui aujourd'hui impressionne.
Jamais champion de France.
Jamais, ouais. Effectivement. 8, 9, voire peut-être 10 finales. Et toujours perdant. Voilà. Ouais. Bon, y en a, c'est souvent gagnant. Eux, c'est toujours perdant. Je crois que cette année, ils ont les moyens pour aller au bout. Je crois qu'on aura. La demi-finale contre Perpignan, ça sera pas le problème pour eux. Je pense que Perpignan est quand même. J'ai rien contre les Perpignanais, mais je veux dire.
Ils sont un cran en dessous.
Je pense que, en tant que. Je dirais, tous les spécialistes, je crois, seront du même avis que moi en disant que Clermont est largement au-dessus de Perpignan. Ça, il n'y aura pas de problème. Après, il y a toujours l'inconnu Stade Français, Stade Toulousain.
C'est toujours des matchs très ouverts. Hein. Tantôt c'est là, tantôt c'est l'autre. Hein.
C'est très ouvert ou très fermé, ouais, mais bon, c'est toujours très serré. Quoi,
ouais, je veux très dire. Ouvert au niveau du score.
Voilà, il ne faut pas regarder les matchs de championnat, puisque bon, on sait comment ça se passe. Hein. Souvent, c'est les équipes 2 qui se déplacent.
Ça avait été le cas cette année, hein, je crois, au Stade de France.
Voilà. Cette année, bon, c'est vrai que le Stade Français a souvent patiné, quoi, je dirais. Hein. Ils sont encore là et perdent samedi à Perpignan, mais bon, le tour, c'était joué, quoi, je veux dire, ils étaient déjà qualifiés. Le Stade Toulousain, bah, ma foi, il a beaucoup donné tout au long de l'année. Il est allé loin en Coupe d'Europe. Il a
des regrets, comme Biarritz il y a deux ans.
Il a des regrets. Il a eu beaucoup de blessés. Mais je pense que Monsieur Noves, c'est ce qu'il fait, il aura une équipe compétitive pour les demi-finales. Puis après, là, je dirais, à mon avis, Clermont, c'est sûr. Après, c'est du 50-50 actuellement entre Toulouse et Paris. Quoi.
Alors, Patrick Capri, lui, qui est venu avec pratiquement, j'allais dire, maillot du Stade Français, lui, je pense qu'il voit différemment. Quoi.
Non, je suis de l'avis de Jean-Luc. C'est, le rugby, pour nous, ça reste avant tout un sport et puis une fête. Donc, si le Stade Toulousain passe, ce sera pas un malheur ni la fin du monde. Mm-hmm. Après, on supporte ses équipes, mais voilà, pour nous, c'est avant tout
Clermont, ça reste donc l'équipe à battre, d'accord avec
ouais,
ça.
Je pense que c'est en regardant tout le championnat là, depuis quelques années, il y a toujours des équipes qui ont soit un jeu très axé sur les avants, ou très axé sur les trois quarts. Donc là, en l'occurrence, on parlait du Stade Toulousain et du Stade Français. Ben, Stade Toulousain, on sait que c'est plutôt une équipe qui joue en trois quarts, et puis le Stade Français plutôt vers les avants. Et Clermont, ben, je pense qu'ils ont réussi à faire la synthèse cette année. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois forts devant, très costauds, et puis une équipe de trois quarts qui a des cannes, qui a de l'inspiration. Ce serait pas une injustice que cette année Clermont gagne. Déjà, ce serait bien, parce que comme ça, Michel Leu serait content pour une fois.
D'accord.
Et puis, franchement, ce serait excellent pour le rugby, quoi. C'est vraiment l'équipe la plus complète du championnat.
Qui était venu s'incliner de peu, donc en début de saison, au Stade de France contre le Stade Français. Ça avait été le premier match de la saison. Ça a donné un beau match. Hein,
mais un très, très beau match. Un très joli match. Très engagé.
Alors justement, on a notre ami Bibi Moreau, hein, qui lui a découvert le rugby à travers les deux matchs du Stade Français cette saison, hein, contre Toulouse et puis Biarritz.
Oui, tout à fait.
Une ambiance que vous aimez quand même.
Enfin, oui, découvert, non, parce que disons que moi,
l'ambiance des grands matchs, quoi.
Voilà, moi le rugby, ça date de...
À Saint-Etienne, on fait du rugby aussi. Hein.
non, l'époque de Riff, Fouroux, etc. Vrai. Bon, c'est vrai que la passion du rugby sur les stades, je la retrouve un peu à travers le Stade Français. Et j'aime le rugby parce que c'est totalement différent du football. C'est vraiment la fête, c'est l'ambiance. On admet dans le rugby que lorsqu'on perd, on admet être tombé contre une équipe plus forte que la sienne. Voilà, ce qui est très rare en football. Généralement, football, quand on perd, on dit ouais, mais on n'a pas eu de chance. Il y a ceci, il y a cela.
C'est trop chaud.
Ça n'a pas été. Alors que dans le rugby, c'est une ambiance particulière. Puis cette ambiance de fête, quand je vois tous les supporters ensemble avec leurs écharpes différentes, deux clubs opposés, ça se chambre intelligemment, c'est une autre ambiance. C'est ce qui fait la force du rugby.
Je voudrais signaler un respect. Moi, il y a une chose qui me fascine dans le rugby, c'est la respectabilité qu'il y a envers l'arbitre.
Oui.
Ça, je trouve ça absolument formidable. Dans notre football, il est pourri par cet irrespect que l'on voit constamment. Et je vois, quoi qu'on voit, comment on commence à voir des gens dans le professionnalisme qui commence à discuter avec l'arbitre, chose qu'on ne voyait pas il y a 2-3 ans. Mais moi, je dis bravo pour ça, parce qu'on voit des grands bonhommes de 2 mètres et 150 kilos qui reculent de 10 mètres quand l'arbitre le monte du doigt.
Le problème, c'est ça, ouais. C'est qu'on recule en rugby. Si on appliquait ça au foot, peut-être qu'il y aurait un peu moins de
contact. Mais moi, je serais pour ce qu'on appelle l'exclusion temporaire, chose qu'on fait avec les gamins quand ils sont soit irrespectueux, soit qu'ils commettent un mauvais geste. On les met sur le bord de touche 2 à 3 minutes, ce qui fait qu'ils ont le temps de se remémorer ce qu'ils viennent de faire, et ça permet aussi de se remettre peut-être en question.
Mais ça, effectivement, comme tu dis, l'exclusion temporaire, c'est hyper important, je dirais, mais même pour nous, je veux dire, même chez nos jeunes, ça existe, y a aucun souci.
Ça fonctionne
pour des fautes techniques, effectivement, nous, en tant qu'éducateurs, on a aussi ce rôle-là, c'est que quand on a des joueurs qui sont un peu, je dirais, énervés, quoi, je veux dire, entre guillemets, plutôt que de le laisser déraper complètement, on le sort 5 minutes, on a le droit de le faire, les règles le permettent, je veux dire, on a le droit à 7 remplaçants. Moi, je vois, je m'occupe des cadets, des moins de 17 ans, donc c'est pas facile à tenir tout le temps. Ces jeunes-là, ils sont pleins de sang, ils sont pleins de vie. C'est aussi leur rendre service et rendre service à leurs copains en leur disant toi tu sors 5 minutes, tu rentreras plus tard quand tu seras calmé. Et puis voilà quoi, je veux dire. Et quant au respect de l'arbitre, ça on nous l'apprend tout petit. Je veux dire, il n'y a aucun souci.
Non, mais je suis éducateur également au football, on leur apprend tout petit. C'est avec l'âge que ça. Que le système dépérit un peu, mais on leur apprend.
Patrick est là aussi pour le confirmer, quoi. Je veux dire, moi aussi j'ai joué en senior. L'arbitre a toujours raison, quoi qu'il arrive, même si
c'est un constat.
Même si on prend un essai, ma foi, tant pis. Quoi, je veux dire,
de toute façon, je crois que le rugby a toujours été associé avec le mot respect, et je veux dire que c'est la base. Et
pourtant, il faut qu'on soit vigilant là-dessus aussi, parce qu'on peut déraper aussi facilement.
Reste quand même, moi je le ressens comme ça. Hein. Je veux dire que quand on regarde les matchs, même quand des fois ça se castagne un peu, on voit le comportement avec l'arbitre, le comportement des supporters entre eux même. Je veux dire que c'est très. Moi je trouve ça, c'est le sport pour moi.
Oui, c'est ce qu'on souhaiterait voir partout, mais je te dis, nous, il faut, je parle de rugby en général, il faut aussi qu'on soit vigilant, c'est notre rôle d'éducateur, de responsable de club, de dirigeant, tout ça, c'est tout le monde doit, même les dimanches dans les tribunes, on a entendu parler, il y a en cours de saison, qu'il y a eu des personnes qui commencent à amener à parler de racisme, à parler de choses comme ça. Et ça, les dirigeants, nous en tant que dirigeants et joueurs, tout ça, on a un rôle hyper important, c'est de pas laisser la porte ouverte à la dérive, quoi. Je veux dire,
pas laisser enfler le problème.
Voilà, voilà. Il faut qu'on réagisse de suite, quoi. Voilà. Ouais. Faut pas laisser les choses s'installer et puis.
Un petit mot sur l'équipe de France et on fera, comme ça permettra de faire la transition
de avec football.
Le foot. Non, l'équipe de France de rugby d'abord.
Ah, de rugby.
Qui a fait une saison, moyenne, dans le tournoi. C'est une équipe qui se reconstruit. Comment peut-on entrevoir la suite des événements et notamment la prochaine tournée en Australie?
Eh bien, l'équipe de France se reconstruit. Je crois que mes copains du football sont d'accord avec moi.
On va devoir faire la même chose.
Au foot,
comme
il va falloir faire la même chose.
Ça fera la transition.
On fera la transition. Mais bon, oui, il y a un nouvel entraîneur. On voit de nouveaux joueurs. Il y a un nouveau style de jeu. Eh bien, ma foi, il faut qu'on digère un petit peu tout ça.
Placé sous l'offensive, c'est vrai que c'est une équipe très 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 spectaculaire, l'équipe de France de rugby.
Oui, c'est spectaculaire. Puis bon,
on privilégie le jeu. Ouais. Ça changera peut-être.
On verra. Quoi. Voilà. Ouais. Il faut voir. Il faut laisser Marc Liégremont.
C'est plus agréable à voir. Hein.
Ouais. Il faut le laisser travailler. Quoi. Je veux dire, c'est le problème aujourd'hui. On a besoin de résultats instantanés. Voilà. Quoi. Donc, en changeant d'entraîneur, on va forcément changer de résultat. C'est pas toujours évident. Hein. On l'a vu. Je sais que tu es aussi bien copain avec les gens de Lens, on l'a vu aujourd'hui, on a voulu changer les choses et en vérité, on n'a fait qu'amplifier le problème. Je suis pas spécialiste de football, mais enfin, je suis quand même éducateur et souvent, en changeant d'entraîneur, ça résout pas tous les problèmes. Il faut aussi que les joueurs mettent du leur. C'est surtout les joueurs qui sont sur le terrain. Ouais. Quand on est éducateur, c'est pas facile.
Alors je vous l'ai dit, émission particulièrement dense ce matin pour cette émission de fête des papas. On a notre ami Jean-Pierre donc, qui est depuis Cernay-la-Ville. Jean-Pierre ?
Oui, Philippe, tu me reçois bien ?
Très 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 bien. Alors ça se passe comment là-bas du côté de Cernay ?
Alors je vais te dire tout de suite, puisque je suis en compagnie donc, du responsable de cette organisation de la Cernaisienne, donc il fait un petit soleil quand même radieux, et je te passe tout de suite Philippe Richard, l'organisateur c'est la 8e édition de cette Cernaisienne, Philippe. Voilà, je te passe Philippe Richard.
Oui, Philippe ?
Oui, bonjour, Philippe.
Alors, comment ça se passe ce matin ? Combien d'engagés au départ ?
Donc, nous avons eu 220 engagés ce matin. On a eu un petit peu moins que les années précédentes, sans doute à cause de la pluie. Peut-être que les coureurs ont craint qu'il pleuve.
D'accord. Mais enfin, bon, finalement, il ne pleut pas. Ce sont des conditions donc météo donc idéales pour votre épreuve des foulées de Cernay-la-Ville.
Voilà, elles sont très bonnes. Il y a un tout petit soleil, l'air est encore frais. Donc pour les coureurs qui vont courir 10 km en forêt, c'est une course nature avec pas mal de dénivelé, il vaut mieux qu'il fasse un petit peu frais. En tout cas, s'il fait chaud, c'est vraiment dur pour eux.
Alors on va rappeler, sur un parcours particulièrement accidenté, et j'allais dire que ça risque de se jouer dès le départ. Ceux qui vont jouer la victoire finale vont se positionner dès le départ.
Oui, c'est ça. Il y a pas mal de descentes et de montées, certains sont puissants à la descente, d'autres puissants à la montée. Et ça va être un jeu entre les hommes et les femmes de gratter, de se démarquer entre coureurs. Souvent, ça se fait donc à la montée ou à la descente.
Très bien, merci Philippe. Et puis on se retrouve donc pour l'arrivée avec peut-être le vainqueur à notre micro.
Oui, d'accord, c'est ça. Donc vers 10h40, je pense, pour le premier homme.
C'est ça, très bien. Merci Philippe Richard. Voilà.
Voilà Philippe, allô ?
Oui Jean-Pierre, vas-y.
Oui, voilà Philippe, le premier point que l'on pouvait faire en direct de Cernay-la-Ville. Et on se retrouve à l'arrivée, là, donc d'ici à peu près une trentaine de minutes, ça fait rare de ma part, c'est ça ?
Absolument mon petit Jean-Pierre, c'est très bien.
Merci de souligner que je suis petit. Voilà, bonne émission de sport et à plus tard, Philippe, c'est à vous l'antenne.
Voilà, merci donc à notre directeur de l'antenne, notre ami Jean-Pierre, qui est ce matin à pied d'œuvre pour nous parler donc des foulées Cernaisiennes. Donc l'équipe de France de rugby qui se reconstruit. Patrick ?
Oui, tout à fait, oui. Comme disait Jean-Luc, c'est une phase de reconstruction avec un nouveau projet de jeu. Mm-hmm. On parlait de la tournée là, qui va avoir lieu en Australie.
Bon, c'est souvent des problèmes de motivation, problèmes... parce que...
Voilà, la saison a été particulièrement longue cette année, puisque les joueurs sont sur le pied de guerre là depuis, pour les internationaux en tout cas, depuis quasiment fin juillet, début juillet. Donc ça leur fait presque une année de compétition dans les jambes. Avec les demi-finales en plus, les clubs ne laissent pas à disposition leurs internationaux, donc c'est l'occasion de voir des nouveaux joueurs. Après, ben, faudra pas se focaliser sur le résultat. Il y a des nouveaux projets de jeu, il y a des nouveaux joueurs, donc ils vont devoir adhérer à ce nouveau discours. Voilà, faudra pas leur en tenir rigueur si on gagne pas. S'ils gagnent, ben, ça fera des points en plus pour la confiance.
L'essentiel, c'est de préparer le tournoi 2009 et puis à plus longue échéance, donc le mondial en 2011.
Non, mais de toute façon, je crois qu'on est prêts, nous, sportifs, rugbyman, à accepter la défaite, les éventuelles deux défaites qu'on va subir en Australie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mm-hmm. Et je crois que ça fait partie aussi. On sait que c'est difficile. On sait qu'une équipe de rugby se crée pas en trois jours, quoi. C'est impossible. Il y a des automatismes. C'est très compliqué, quoi. Je veux dire, surtout de plus en plus à haut niveau. Déjà, on le voit chez nous. C'est pas toujours facile, hein, voilà. à notre bas niveau, je dirais. Mais bon, c'est encore plus difficile à haut niveau, puisque bon, il y a des professions professionnelles aujourd'hui. Mais bon, faisons-leur confiance, quoi, je veux dire.
Eh ben, on leur fera confiance. Alors, est-ce qu'il faudra faire confiance à l'équipe de France de foot actuelle? Est-ce qu'il va falloir reconstruire comme pour le rugby, messieurs?
À mon avis, oui. Là, on est arrivé à une fin. On va appeler ça peut-être une fin de cycle ou une fin de génération, puisque on arrive avec des gens qui ont 32, 33 ans, qui ont failli sur le dernier match.
Ouais. Surtout défensivement.
Parce que disons que nous étions dans une méthode où on avait un système de jeu plutôt défensif qu'offensif. Mmh. On s'est aperçu qu'avec des vieux, ben, ça tenait pas tout le temps la marée. Les Hollandais, même avec pas un niveau de jeu extrêmement rapide, ouais, mais qui ne perdent pas de ballon facile.
Mais il y a eu la même chose pour les Italiens.
L'Italie, l'équipe la plus vieille en moyenne d'âge. Ouais. Donc, on se rend compte,
son partenaire, ils étaient à la rue aussi. Hein.
Voilà, on se rend compte qu'à un certain moment, bon, c'était des grands joueurs. Enfin, je vais pas marcher à la soupe parce que Thuram, c'est un grand monsieur. Mais on est arrivé à un système, c'est vrai qu'on peut pas jouer au-delà de 33, 34 ans. Vu la vitesse qu'ont les jeunes maintenant, c'est très, très difficile à jouer. Et on l'a vu. Et puis, le système de Benek, moi, je pense qu'il a failli, quoi. Oui. Son coaching n'a pas été d'un génie outre mesure.
Quoi. Jean-Paul, bon, on n'en est pas encore là, mais si, par exemple, il n'y a pas de qualification mardi après le match contre l'Italie, on peut envisager, mathématiquement, c'est possible, battre l'Italie 1-0 et que la Roumanie soit battue par les Pays-Bas. Oui, c'est pas impossible, ça. Mais est-ce que la place de Domenech est en jeu si par exemple il y aurait
déjà c'est pas impossible, mais ce qu'il faut d'abord, c'est surtout compter sur soi-même, surtout pas compter sur les autres, puisque maintenant on est obligé de compter sur les Roumains et les Pays-Bas. Les Pays-Bas étant qualifiés, je pense qu'ils vont faire jouer leur deuxième couteau, enfin tous les gens remplaçants, pour les faire au moins jouer un match de Coupe d'Europe, ce qui est d'une logique.
Il peut y avoir un non-match entre les Pays-Bas et la Roumanie, parce que d'un coup on aurait le champion du monde,
à moins que les remplaçants veulent mouiller le maillot pour prendre la place des titulaires. Donc ça peut être la chose qui peut nous favoriser. Domenech, oui, je crois que ça va être difficile pour lui là. Puisque ses explications sont quand même assez évasives, c'est très théâtral, ils ont presque toujours bon. Je suis toujours déçu, parce que à chaque fois que je les entends, mis à part Evra et puis je ne sais plus quel autre joueur qui se sont grosso modo remis en question, les autres même contre la Roumanie pensent avoir fait un bon match. On ne doit pas avoir les mêmes choses, ou alors je regarde le télé de l'autre côté, je regarde le côté arrière et non pas le devant, je sais pas, il y a quelque chose qui me choque. Mais bon, oui, le système de Neck, je pense qu'il a failli.
Un manque d'efficacité côté français. Et ça aussi, c'était récurrent. Pendant les matchs de préparation, on avait vu qu'on ratait quand même beaucoup d'occasions, et c'était assez récurrent
On a beaucoup d'eau, on rate beaucoup d'occasions. On joue aussi sans un avant-centre de pointe, c'est-à-dire qui fixe une défense. Là, c'est aussi très difficile. On n'a pas de point d'ancrage dans les 6 mètres. On a bien mis Gomis dans les 20 dernières minutes, mais le pauvre vieux était caché derrière son stopper. Et il n'a pas eu. Puis d'ailleurs, il a été complètement sevré de ballon. Il n'a pas eu d'espace et il a été sevré de ballon. Et en plus, on a déplacé grosso modo notre meilleur créateur sur le côté gauche, où il se sent très mal à l'aise. Donc je pense que c'était pas des bonnes choses.
Donc pas très optimiste pour la qualification. Vous pensez que l'équipe de France va être en
vacances? J'aimerais bien qu'ils battent l'Italie, que la Roumanie se fasse battre. Je suis toujours pour. Mais bon, il faut aussi penser que, comme dans le monde du rugby, il y a des moments où on ne joue plus avec Coppa et puis Piantoni. Il a bien fallu qu'on change. Donc on va changer. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent.
Moi, je pense que ce serait un mal pour un bien qu'on soit éliminé. Qu'on remette les choses à plat et qu'on se remette un petit peu en cause. Monsieur Domenech se remette en cause un peu.
On avait fait les mêmes reproches à Bernard Laporte après le mondial.
On n'a pas hésité à dire que
je trouve que c'est un peu dommage d'arriver à prendre 4-1 contre les Pays-Bas et puis de s'apercevoir que moi j'ai été confiant dans cette équipe de France, puisque de toute façon je suis toujours derrière cette équipe. Mais c'est vrai, l'entraîneur des Pays-Bas avait dit que son équipe serait pas prête pour le mondial, qu'elle serait prête pour l'Euro. À un moment, je crois qu'il faut se rendre compte, on remercie tous les grands joueurs et prendre en compte l'âge, la forme et tout, et puis de repenser à reconstruire comme ça se fait dans le rugby. Voilà, il aurait peut-être fallu tourner la page après la dernière Coupe du Monde, ou peut-être même avant, quoi, et se fixer un objectif.
Mais il a essayé de mener, de tourner la page avant. On a été obligé de rappeler les anciens. Parce
oui, mais c'est malheureux. Mais non, non, on tourne la page, mais il faut accepter. Voilà, faut accepter de prendre 5 ou 6 défaites.
Mais on n'allait pas au Mondial 2006.
Je veux dire que là, là, de toute façon, on va se faire sortir du championnat d'Europe. Il va avoir 2 ans pour reconstruire une équipe ou le futur entraîneur pour la Coupe du Monde. On ne sera pas prêt. En 2 ans, on ne peut pas construire un bloc solide. Donc, il aurait fallu se dire, bon, bah, écoutez, les petits Français, je vous préviens, je reprends l'équipe. On reconstruit, on fait l'impasse sur le championnat d'Europe. Je fais jouer mes gars ensemble pendant 4 ans avec des entrées, voilà, des sorties. Et tourner la page. De toute façon, là, on va se faire sortir, on ne sera pas prêt pour le championnat du monde. Enfin, pour la Coupe du Monde.
À noter que chez les Hollandais, même en menant 1-0, voire même 2-0, ils font rentrer dès avant.
Oui,
ils ne font pas rentrer des demi-défensifs comme nous, on aurait fait. Nous, on aurait enlevé un avant pour faire rentrer un demi-défensif pour encore fermer beaucoup plus. Eux, ils ont fait rentrer Van Persie et Robben, qui sont grosso modo 2 très très bons joueurs qui ont été blessés assez longtemps dans la saison. Et d'ailleurs, quand ils sont rentrés, ils ont marqué un pion chacun.
6 tirs au but, 4 buts.
Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu des occasions côté français, comme il y a eu des occasions pour l'Italie, et à l'arrivée, il y a 4-1.
Voilà, beaucoup de maladresse. On a vu à Anelka, les 3 tirs qu'il a fait, 2, il s'est retrouvé par terre tout seul. Un peu difficile à digérer. Et puis, bon, moi, je confirme à dire que les Hollandais, quand ils faisaient circuler la balle, ne perdaient pas ce qu'on appelle des ballons faciles. Des ballons sur une petite transmission de balle au milieu du terrain, la balle allait. Chez nous, on la perdait. Résultat, on se mettait toujours en difficulté. Et on ne peut pas dire que les Hollandais vont très très vite. La charnière hollandaise n'était pas non plus phénoménale. Leur milieu, comme Angelaar, ce sont des gens qui sont très puissants, mais qui ne vont pas très vite.
Ouais, parce
mais
on a senti un moment que ça pouvait basculer. Hein.
Tout à fait.
Mais pouvait basculer un moment. Si Henri marque, ça bascule. Quoi.
Ouais, bah, on aurait peut-être un pénalty flagrant qui existe. Il y a un pénalty absolument.
Quand on regarde l'ensemble, on voit quand même les lacunes. Bon, Coupé, il a été juste. Thuram a été juste. Malouda a été juste.
Rarement Coupé a été passé en travers.
Et puis Galas n'est pas à son niveau. Il s'est fait prendre tous les ballons de la tête par Van Nistelrooy.
Rarement Coupé, il a pris une saison extraordinaire. Bon, il a été
blessé. Non, mais en équipe de France.
Oui, mais je veux dire, voilà, c'est la fin d'un cycle.
Non, mais même, je pense que Thuram, il a même rempli son contrat. Là, ils sont arrivés.
Thuram, il était toujours très loin sur l'action. Sagnol ne centre plus. La seule bonne chance.
Le problème de Sagnol, il n'a pas joué pendant 8 mois. Alors, c'est très difficile. Il a dû rentrer les 3 derniers matchs ou les 4 derniers matchs au Bayern.
Il est derrière.
Et je pense qu'il y a eu une grosse erreur tactique.
Tout vient du côté gauche.
Bon, le fait d'avoir fait rentrer Gomis, d'avoir déplacé Ribéry, il tenait la baraque, quoi. Bon, quand on a un joueur comme ça, on ne change pas de poste. Enfin, je pense que ça a été un mauvais choix. Bon.
Donc pas très optimiste pour mardi, monsieur.
Moi je vais rester parce que je vais d'abord être français avant d'être italien et puis avant d'être roumain, mais j'ai quelques doutes. Surtout que les Italiens l'ont aussi mauvaise parce qu'ils ont pris une raclée aussi.
Et ils aiment jouer d'où donc, les Italiens. Ce sont des situations qu'ils aiment bien souvent.
Et puis avec les Français, bon, c'est quand même des matchs à couteau tiré.
Enfin, c'est quand même dommage.
Je t'aime moi non plus quand on joue contre eux.
C'est quand même dommage d'espérer d'attendre les résultats des autres équipes. Bon, voilà.
On n'a pas de trop d'estin en main. Ça, c'est
oui, non, mais même
on savait que c'était le groupe le plus relevé quand même.
Oui, on avait les moyens avec eux. On est quand même l'équipe.
Il faut quand même
si. Je veux dire que bon, faut. Voilà. Là, le problème, c'est que si on passe, allez, on va gagner 1-0, un but à raco contre les Italiens. Les Romains vont faire match nul. Bon, on se tape le Portugal après.
Et qui sait si ça peut repartir?
Ça pourra pas. Philippe, oui, maintenant, pas. Je crois que vous. Là, avec l'équipe de France, on est en train de vivre. Philippe, avec mon club de Saint-Étienne, on est resté pendant des années. On s'est dit, voilà, à un moment, on s'est dit, bon, il faut redescendre sur terre. On a beau s'appeler Saint-Étienne, il faut reconstruire. On a mis longtemps. C'est pareil pour l'équipe de France. 98, c'est terminé. 2000, c'est terminé. On est tous derrière nos bleus. Mais on a besoin. Alors, si Raymond Domenech y reste, tant mieux pour lui. S'il y a un autre entraîneur, on a besoin de reconstruire. Merci à tous ces grands joueurs qui nous ont apporté nos titres. On les en remercie. Maintenant, faut tourner la page. Zidane a su le faire. Et ben, ses collègues, voilà.
Il y a le même cas pour le rugby. Quand on a battu les Blacks, on s'est dit on va être champion du monde. Et puis les Anglais nous ont rappelé à la réalité.
Je veux dire la grosse erreur de Bernard Laporte, c'est qu'à ce moment-là, on l'a vu, notre emblématique capitaine Fabien Pelous était cramé, quoi. Je veux dire,
pareil.
Il faut. avait un aller qui piaffait d'impatience à côté, je veux dire, bah, il fallait le faire jouer, quoi, je veux dire. Ok, comme tu dis, merci les grands joueurs, ils ont fait leur temps. Au bout d'un moment, ces garçons-là, ils se sont investis dans la promotion de l'équipe, dans tout un tas de choses comme ça. Ça use, quoi, je veux dire. Il faut reconnaître les choses. Et puis, j'ai certain que bon, l'expérience a du bon, quoi, je veux dire. C'est un fait. Mais la jeunesse également, quoi, je veux dire. Un peu de folie, ça fait du bien, quoi, je veux dire. Et puis, je sais pas si vous pensez, messieurs les footballeurs, que est-ce que vous pensez pas que les joueurs ont pris le pas sur l'entraîneur à la fin? Est-ce que c'est pour eux qu'ils...
Je pense qu'ils dirigent plus beaucoup l'équipe à un certain moment, oui. Ça s'est déjà passé avec Zidane quand on a eu la Coupe du Monde, où c'est dans le vestiaire, c'était pas franchement Domenech qui décidait, mais on le sent un petit peu où Thuram, on voit qu'il a quand même un grand poids sur l'équipe.
Tout à fait, oui.
Mais...
Oui, mais enfin, Jean-Paul, ça a toujours été ça. Du temps de Deschamps, il y avait beaucoup son mot à dire avec Aimé Jacquet. Pareil pour Platini avec...
Ces garçons-là, ils avaient 25, 27 ans.
Il y avait des joueurs qui ont été influents quand même avec l'entraîneur.
Il y a toujours dans un club, même dans les petits clubs, il y a toujours un joueur influent qui va venir vous titiller l'entraîneur pour lui dire ton choix, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ou je veux ci, ou je veux ça.
On en discute, je ne sais pas si on en discute.
On en discute. Dans mon club, nous, on en discute. Par contre, quand je prends une décision, c'est moi seul. Je l'assume après. Ça, il faut le faire. Maintenant, en équipe de France, c'est vrai qu'on est là dans des sports de très haut niveau, donc il est évident. Ça se juge aussi en fonction de la forme du moment. On n'est pas très bon toute l'année.
Parce que j'imagine quand même mal Domenech se laisser faire quand même.
Moi aussi. Mais vous savez, je suis tellement surpris par beaucoup de choses que j'ai vues dans le monde du football que ça ne me surprend pas complètement. Quoi. Ouais.
Moi, je pense une chose, c'est que tu ne peux pas faire une sélection avec la moitié de l'équipe qui sort de l'infirmerie. Quoi.
C'est un peu le problème. Voilà. Et surtout des joueurs qui n'ont, comme Malouda, qui n'ont pas été titulaires, bien sûr, énormément de la saison. Thuram, n'a pas été titulaire puisqu'il était souvent remplaçant. C'est Puyol qui avait la place au Barça. Sagnol a été blessé 7 mois de la saison. Beaucoup de joueurs qui ont été absents pendant une grande partie. Donc la mise en forme, c'est vrai qu'après, elle est difficile.
À un moment, il faut que les actes aillent avec le discours. On a dit, j'ai entendu dire, on prendra les joueurs qui ont joué dans leur club, les joueurs qui ne sont pas blessés. Au total, tu regardes la liste.
Il fait l'inverse.
C'est l'inverse, quoi. Donc, c'est pas très crédible non plus dans le discours.
Non.
Imagine le pour. Enfin, moi, je.
Et bon, puis en France, il ne faut surtout pas oublier qu'on a 60 millions de sélectionneurs.
Oui, je pense que c'est dans tous les pays.
Oui, mais c'était pareil pour le rugby.
Mets-toi à la place d'un Mathieu Flamini qui a flambé toute l'année à Arsenal. Deux fois, on lui a fait le coup, tu viens plus.
Tu viens, puis tu repars.
Quelle crédibilité l'année prochaine. Si M. Domenech est toujours l'entraîneur qui le rappelle, à mon avis, au Milan AC, il va
dire... Moi, je trouve qu'il a déjà fait un grand pas en mettant Evra à la place d'Abidal, que je pensais qu'il aurait été titulaire tous les matchs, alors que Evra, ça a quand même été un grand toute la saison.
Grande saison d'Evra.
Grande saison. Il y a un autre joueur qui a été très grand aussi, c'était Gaël Clichy, qu'on a un petit peu occulté. Mais
il y en a plein.
Ce sont ses choix.
Voilà, c'est les choix de l'entraîneur, on ne peut pas les contester. Maintenant, bon, quand on arrive dans une compétition comme ça, bon, c'est quand même mieux que les choix soient... voilà. Là, le constat, de toute façon, on est tous. On arrive tous au même constat.
Il y a une différence fondamentale, en plus, à mon avis, entre justement ces titres qu'on a gagnés en 98 et 2000. C'est que, comme on faisait remarquer là, c'est qu'il y avait une relation de confiance et presque d'amitié entre justement Deschamps et Jacquet, qui ont tous les deux leur caractère, caractère très fort, mais il y avait quand même une relation de respect et d'amitié qui, à mon avis, n'a pas eu lieu justement entre Domenech et ses joueurs.
Oui, enfin, c'est possible. Il y avait une très grande osmose de jeu dans les équipes 98-2000 parce que c'était des joueurs qui avaient l'habitude de jouer ensemble et il y avait du feeling dans cette équipe. On a beaucoup d'individualité. On va voir des joueurs qui vont frapper en mauvaise position avec le pied d'appui en arrière. Ça va passer 30 mètres au-dessus. Alors que 98-2000, non, on faisait la bonne passe au bon moment.
Et puis non, puis déjà l'équipe.
Et puis c'était quand même des grands talents.
Mais voilà,
l'équipe était beaucoup plus jeune, donc quand t'as 10 ans de moins, les Hollandais, c'est des mobilettes. Hein. Les gars, ils courent.
J'irais du vélo Solex. Hein, c'est pas encore des grandes mobilettes. Hein, ils vont pas très vite.
Non,
mais le jeu est constant, sans perte de ballon. Et bien sûr, quand ils ont mis Robben et
nous, les gars, la moitié de l'équipe de France, les gars, ils ont été champions du monde, champion d'Europe, vice-champion du monde. Bon, faut laisser les petits jeunes, les gars qui ont envie de gagner des trophées, de porter le maillot. Bon, je dis faut pas que Thuram il a pas envie de porter le maillot, mais bon, les gars qui arrivent, c'est ça le sport, c'est la compétition, de dire et voilà, on y va, on est jeune. De toute façon, la jeunesse dans le sport, ça fait tout. Et on,
je pense qu'on est assez compétiteur. C'est pour jouer dans les clubs où ils jouent, faut être compétiteur quand même.
Oui, un moment dans le football, je sais pas si à un moment on peut parler de compétition. Hein. Quand je vois le comportement dont on n'a pas discuté tout à l'heure. Après 4-1 coupé qui sourit à moitié, ou qu'à un moment quand il se prend un but, faut arrêter quoi. Moi j'aurais la honte. Moi j'ai eu honte. Je suis supporter de l'équipe de France.
Le sourire de Coupé quand il va chercher la balle de la tête devant Nils Roy, ça me, je me suis crispé. J'ai pas fait de commentaire. Ma femme m'a dit que j'en faisais beaucoup trop.
Dans le sport, faut avoir un peu d'amour propre. Hein. C'est comme nous quand Piquion a changé son maillot à la mi-temps d'un derby quoi. Bon, on est l'équipe de France. On a pris une raclée parce que c'est pas une défaite, c'est une raclée. On a pris une leçon de football.
Oui, première pas depuis 68 en match officiel.
Voilà.
Et sinon, depuis, donc avec l'équipe de France, 82, c'était la Pologne qui était venue gagner au Parc des Princes 4-0.
3-0,
oui. Et il y a eu un match amical aussi auparavant qu'on avait pris 4-1 à Hanovre contre l'Allemagne. C'était en novembre 80, je crois.
Alors on peut toujours se dire, bah oui, mais les Italiens ont pris 3-0. Mais enfin, la différence, c'est que les Italiens, ils sont pas fiers. Eux, ils étaient
plus excusés, publiquement.
Voilà. Ouais. Ils sont excusés, ils ont dit, voilà.
Ils ont dit qu'ils n'avaient pas fait un mauvais match.
Oui,
mais ils ont eu des occasions, les Italiens, en plus, comme les Français, quoi.
Oui. J'ai vu un Italie-Roumanie qui était assez plaisant. Hein, qui était assez plaisant.
Alors en plus, c'est qu'on se prend 4-1 et puis on se dit les Pays-Bas étaient prenables.
Il faut
se poser des questions. Quoi.
Alors justement, on va revenir sur les groupes. Hein. Donc le groupe C, on va rappeler les résultats. Roumanie-France 0-0. Victoire des Pays-Bas devant l'Italie, donc 3-0. 1-1 entre l'Italie et la Roumanie. C'est vrai que c'était un match assez équilibré.
Hein, c'était un match très équilibré, très plaisant, parce que les Roumains n'ont pas du tout montré le même visage que contre les Français.
Ils le ont moins fait beau match de cet Euro, hein. Roumanie-France.
Tout à fait.
D'ailleurs, c'est le seul 0-0.
Il n'y a pas photo. Hein, avec un Grèce, je ne sais plus quoi que j'ai vu aussi, qui était absolument affligeant. Mais les Roumains, on fait une belle prestation avec un Moutou très très intelligent dans son système de jeu.
Il manque un penalty, sinon c'est dédite. Ouais.
Non, tout à fait. Non, il l'a pas manqué.
C'est le gardien.
C'est le gardien qui l'arrête.
Je trouve qu'il est mal tiré, moi. Il est mal tiré. Il est mal tiré.
Et puis donc,
mais il y a le talent de Buffon aussi. Il faut. On va pas non plus. Tout à fait.
Et puis donc ce match, donc qui a vu les Pays-Bas battre la France 4-1. Donc les Pays-Bas sont qualifiés. Après, ça va se jouer entre la Roumanie, la France et l'Italie.
Voilà. Et sachant que les Français n'ont pas du tout leur destin.
Voilà. Alors, il peut.
Mais maintenant, en l'ayant, je ne sais pas si on ferait mieux.
Alors, auparavant, il y aura aujourd'hui la fin du groupe A. On va rappeler les résultats donc depuis la semaine dernière. Donc, le Portugal qui bat la République Tchèque 3-1 et la Turquie qui a battu la Suisse 2-1. Ça, c'est un beau match parce que
Je l'ai vu. Oui. Conditions météo qui étaient difficiles. C'était un match de water-polo au début, la première mi-temps.
D'un côté comme de l'autre.
Ça a basculé. Ça a basculé. Je crois une minute de la fin ou deux minutes de la fin, quelque chose comme ça. Match très équilibré, qui sentait un peu la poudre parce qu'il y avait des.
Oui, il y avait un contentieux.
Il y avait un contentieux extrêmement grave, mais oui, mis à part le sur, je pense que s'il n'avait pas plu, les Suisses auraient été beaucoup plus en difficulté.
Oui.
Parce qu'il y avait plus de vivacité devant chez les Turcs qu'il n'y avait chez les Suisses, qui ont perdu Frey, qui est quand même un bon joueur aussi.
Donc les Portugais sont qualifiés, 6 points.
Avec du bon football, c'est une équipe que je trouve très très bonne.
C'est les deux équipes qui ont fait les meilleures impressions, Portugal, c'est Pays-Bas pour l'instant.
Espagne.
Espagne aussi, Espagne. Attention à l'Espagne, parce qu'après il y a...
Oui, ils ont toujours du mal à arriver en quart de finale, avoir un mental qui aille au-dessus. Mais les Portugais, je les vois aller assez loin. J'ai une très grande confiance.
Donc, et le Portugal qui est qualifié, et puis tout va se jouer ce soir entre la Turquie puis la République tchèque pour accompagner donc le Portugal en quart de finale. Les Suisses sont éliminés.
Tout à fait. le match Suisse-Pologne.
Il y aura beaucoup d'occasions aussi.
Suisse-Portugal, faut pas le voir. Faut pas le regarder.
Voilà. Dans le groupe B, alors là, grosse surprise quand même. C'est l'Allemagne qui avait battu la semaine dernière la Pologne 2-0, qui a été battue par la Croatie de Buzyn.
Complètement prise au piège des Croates.
C'est fou,
qui ont fait leur système de jeu à eux. Et les Allemands n'ont pas réussi à le surmonter, c'est-à-dire à mettre leur football à eux en place.
C'est fou parce que les Allemands ont fait très bonne impression contre les Polonais.
Pour moi, c'est la plus belle équipe que j'ai vue quand ils ont gagné leur premier match.
Ouais, contre les Polonais. Ouais.
Contre les Polonais. Vraiment un très très beau football. C'était très écarté, c'est très aéré le football allemand. C'est une très belle équipe.
Et puis les Croates qui avaient auparavant battu l'Autriche 1-0. Et puis Autriche-Pologne, un partout.
Dans un match assez lamentable.
Et Autriche-Pologne, un partout. Les Autrichiens qui ont raté beaucoup d'occasions, même s'ils ont un pénalty très généreux.
Oui, un peu un festival de maladresse.
Ouais.
Hein. Oui, ouais. Tout à fait. Mais donc bon, là, les Autrichiens, je ne sais pas s'ils sont vraiment
là, Les Croates sont qualifiés. Par contre, c'est vrai qu'il va y avoir un Autriche-Allemagne qui va être déterminant pour les qualifications.
Oui, je crois que dans les statistiques, l'Autriche a battu qu'une seule fois l'Allemagne en 20 ans.
Ou en Coupe du Monde, hein.
Oui.
Ah, oui.
Une seule fois. Ouais, bon, je grande confiance aux Allemands parce que l'Autriche, c'est quand même un petit football. C'est assez pauvre.
L'Autriche, ils ont l'avantage d'être pays organisateur.
Oui, mais.
Vous savez que le problème autrichien, c'est que même les supporters du football autrichien avaient fait une pétition pour pas que leur équipe se présente pour ne pas avoir honte. C'est vrai. Hein.
Tout est résumé.
Tout est résumé. Et puis, mais ils n'ont pas été en plus aussi mauvais que qu'on voulait bien le dire, surtout sur le deuxième match.
Oui. Même s'il rate beaucoup d'occasions.
Tout à fait.
Bon. Pologne-Croatie, ça peut. Les Polonais peuvent aller chercher la qualification.
Oui, parce que les Croates, c'est du football méditerranéen. Ça peut être tout bon ou tout mauvais.
Ouais, c'est vrai.
On les a vus tout mauvais contre l'Autriche, la deuxième mi-temps. On les a vus tout bons contre l'Allemagne. C'est un peu la particularité croate. Quoi. On peut être absolument géniaux comme on peut être absolument dans un petit jour.
Alors l'Espagne est aussi qualifiée. Donc ils sont quatre pour l'instant à être officiellement qualifiés pour les quarts de finale. Donc l'Espagne qui a très largement battu la Russie 4-1, que dans le même temps, la Suède battait la Grèce 2-0. Et puis hier, donc l'Espagne qui a battu la Suède 2-1.
Dans un arrêt de jeu.
Oui, et la Russie qui bat la Grèce 1-0. Pour le football, il vaut mieux quand même. Hein.
Oui, d'abord, encore que la Grèce n'a pas montré un visage aussi défensif que le premier jour, mais on ne peut pas faire autrement. Les Russes, c'est pas non plus. Si, il y en a quelques attaquants qui sont très très bien, mais ça manque de conviction chez les Russes, oui. Côté, mais j'ai vu le match hier soir, ils méritaient vraiment de gagner, quoi, les Russes.
Ouais. Côté grec, ça manque de conviction quand même.
Ça manque de conviction, ça manque un peu de football, et puis j'ai plus l'impression que ce sont des marathoniens que des footballs pour certains.
Alors, imaginez le champion du monde, le champion d'Europe en titre et le vice-champion du monde qui tombe au premier tour. Ce serait assez fou.
Ça s'appelle le renouvellement du football.
Voilà, c'est ça.
Ou l'équilibre des footballeurs, parce que les petits pays deviennent des grands et ils n'ont plus peur.
Bibi, un petit mot sur ces commentaires, ces matchs qu'on a eu cette semaine l'occasion de voir.
Oui, ben j'en arrive à la même constatation que vous. C'est vrai que quand on dit imaginer, je pense que il y a de grandes probabilités que le tenant du titre, le vice-champion du monde et le champion du monde passent à la trappe. Bon, c'est le jeu de cette compétition. Il y a pas, en plus, on sait, comme on disait la dernière fois, bon, c'est un championnat d'Europe, c'est plus dur qu'une Coupe du Monde. Voilà, toutes les grandes nations peuvent tomber dès le premier tour. Il y en a même qui peuvent ne pas y participer, comme l'Angleterre. Bon, je suis plus à me poser des questions sur l'avenir de l'équipe de France qu'à me poser des questions sur son éventuelle qualification. Voilà.
Voilà. Donc on va rappeler quatre équipes déjà qualifiées. L'Espagne, les Pays-Bas, la Croatie et donc le Portugal. Et puis la suite tout au long de la semaine, ça nous contente.
C'est une logique déjà. Bon, on reste dans la logique.
Peut-être pas la Croatie quand même.
Si, moi je l'avais dit, la Croatie.
Non, mais pas comme première équipe du groupe. Quoi.
Non, mais
vous savez, dans notre groupe soi-disant difficile, on pensait que la France et l'Italie s'en sortiraient aisément. Les résultats sont peut-être les deux équipes qui vont rester en bas des marches.
Moi j'avais dit France-Pays-Bas quand même. Hein.
La Croatie, non, je suis pas surpris. Hein. C'est un football qui peut être virevoltant comme il peut être mauvais. Donc non, je suis pas surpris. Ils ont fait ce qu'il fallait comme il fallait.
D'accord. Alors Jean-Paul, on va quand même parler du FC Drouet.
Oui.
Hein, parce que le temps passe très vite.
Là, une saison.
Ils sont en Coupe d'Europe aussi.
Ah non, le FC Drouet, ils jouent en championnat du dimanche matin.
Alors comment ça s'est passé? Pas très content. Vous avez.
Non, je suis pas.
L'équipe de France déçue par le FC Drouet.
Oui, parce que nous avons été premiers de la première journée de championnat jusqu'à deux matchs de la fin.
Oui.
Et nous avons perdu nos deux derniers matchs, ce qui fait que nous retrouvons troisième. Il y a eu un match contre Naufle où les joueurs étaient pas dans un grand jour. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Et le gardien a fait une bourde absolument monumentale. Celle de Coupet, c'est rien à côté.
Ah bon.
Alors, il a relâché la balle qui lui est tombée sur le pied, qui est partie dans le but. Ça, c'est la seule fois où ça lui est arrivé. Ouais. On ne peut pas non plus critiquer. Et le dernier match où on jouait chez celui qui allait monter, parce que nous étions tous les deux premiers, on a fait une prestation absolument extraordinaire. Mais le monde du football est ainsi fait. Ils ont marqué deux buts sur contre-attaque et nous, on a raté tout ce qu'on voulait.
D'accord. Donc, vous êtes combien
Alors, nous finissons troisième à deux points, puisqu'on s'est fait doubler parce que nous avons perdu. Il y avait trois équipes comme vraiment au-dessus du lot. Et
les autres équipes vraiment beaucoup de difficultés pour nous rejoindre et ça s'est joué à 3, donc nous finissons 3e. Donc il n'y a qu'un seul qui monte en excellence.
D'accord. Vous êtes uniquement tablé sur le foot du dimanche matin ?
Oui, uniquement tablé sur le foot du dimanche matin.
D'accord. Combien de joueurs au club au total ?
J'avais 26 ou 27 joueurs. J'en ai qui vont partir parce qu'on avait des jeunes, on avait beaucoup beaucoup de jeunes hein, puisque la moyenne d'âge de l'équipe première était à peu près de 22 ans et demi, 23 ans. Oui, j'avais 9 joueurs titulaires de moins de 20 ans dans mon équipe. Donc c'est vrai que ce sont des jeunes qui vont partir en études, qui vont faire des écoles. Donc maintenant, je suis à la recherche, je recrute.
Eh ben allez-y, vous êtes là pour ça.
Alors, hein, le FC Drouet, il recrute. N'hésitez pas, en championnat du dimanche matin. Donc les matchs ont lieu le matin de 9h30 jusqu'à peu près 11h30. Nous avons un entraînement par semaine. Donc si vous voulez rallier notre club, ce qui vous permet, hein, pour tous les gens jeunes mariés ou que la copine ne veut pas qu'ils partent toute la journée, eh ben, à 13h, midi et demi, 13h, il est à la maison et vous l'avez tout l'après-midi pour vous. Voilà. Je le garde simplement le matin pour moi pendant que vous faites le ménage.
Oui,
donc voilà. Si vous voulez, ben écoutez, vous contactez soit la mairie d'Orphin, soit la mairie d'Orsemont, hein, puisque le FC Drouet est le jumelage des communes d'Orphin et d'Orsemont. Et Émancé aussi maintenant qui va venir avec nous.
C'est bien, c'est bien.
Donc,
le foot des villages, c'est ça, hein.
Voilà, c'est le foot des villages. Simplement, Orphin et Orsemont, bon, on avait deux clubs, c'était très difficile à vivre à 2 ou 3 km l'un de l'autre dans des petits villages. Donc on s'est regroupés, on a donné le nom de la rivière qui traverse les communes. Donc c'est pour ça que ça s'appelle FC Drouet. Et puis on a dû mettre 78 parce qu'il existe le FC Drouet 28.
D'accord. Vous jouez où ? Sur quel terrain ?
Alors nous jouons sur le terrain soit d'Orsemont, soit d'Orphin. Celui d'Orsemont était surtout beaucoup à l'entraînement, donc il est en plus mauvais état puisqu'on s'en sert beaucoup plus. Et souvent on joue sur le terrain d'Orphin qui est en très bon état.
Le prix de la licence et de la cotisation ?
Alors le prix de la cotisation sera de 90€ l'année prochaine, elle était de 85, hein, on est obligé d'augmenter. Et oui, bah, toujours recrute de joueurs. Et puis nous avons aussi une équipe vétéran.
D'accord.
Donc là aussi, pareil, recrutement en cours. Hein, pour ceux qui veulent, vétérans, ils seront les bienvenus au FC Drouet.
Les entraînements, c'est quand
Alors les entraînements, il n'y a qu'un seul par semaine. Hein, c'est le mercredi de 20h à 22h, 22h15. Donc on met en 2h15, on groupe tout.
Bon, le club n'est pas en survie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment de joueurs...
Ça va, non. Ça va l'année prochaine. Il va falloir qu'on recrute. Mais bon, j'ai des bonnes recrues qui vont arriver. Là, j'ai mis beaucoup de pouvoir sur moi parce que j'ai le copain de ma fille qui va sûrement jouer, qui arrive de CFA2 de Bretagne et de DH. Ah oui, c'est un très très bon joueur, excellent joueur. Donc comme ma fille, elle était bien dressée, elle ne veut pas qu'il joue l'après-midi. Donc on va recruter. Ah, et puis il vient avec un copain. Et puis j'ai 2-3 joueurs encore qui vont signer. Donc mais il me faut encore au moins, j'aimerais bien avoir un bon avant-centre.
Ils viennent d'où vos joueurs ? Parce que bon, vous êtes tout près de Rambouillet. Quelque part, c'est un désavantage.
J'en ai beaucoup d'Orphin, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent d'Orphin. J'ai quelques déçus du club de Rambouillet. Parce que Rambouillet, dans le club de première, chez Gérard Dacheux, on fait beaucoup d'élitisme. Donc si on est bon, ben, on joue. Si on n'est pas bon... Ah, dans le monde du football, on a un peu ça. Hein. Je sais de quoi je parle, hein, pour Rambouillet, n'ayez crainte. Et on fait
on l'entend jamais sur le terrain.
Non. Et je recrute, je reçois ces jeunes, ou alors qui ont peut-être des conflits avec leur éducateur, hein, aussi, ça peut arriver. Et la plupart du temps, oui, c'est soit Rambouillet, soit les communes avoisinantes, Orphin, Émancé, Ablis, pour les gens qui veulent jouer dimanche matin.
D'accord.
Ils jouent en bleu ?
En bleu et jaune.
D'accord. Et donc, le public qui vient quand même au match, ou alors c'est vraiment des...
Alors, le public, le dimanche matin, ça court pas les rues.
Ouais.
C'est ni les stades non plus. Quand on a une galerie de 20 personnes, je crois que c'est un maximum. Le stade est complet.
Le prix des places ?
Alors, le prix des places est de 0 euro.
Ah, c'est bien. À des rares stades gratuits.
Voilà.
On blague.
Les matchs sont pas si mal que ça. Hein, ne pensez pas. Hein.
Ah, les vétérans, ils parlent.
On n'a jamais dit ça.
Les vétérans, ils parlent, ça rigole pas toujours. Hein.
Le problème des vétérans, c'est qu'un match de vétérans, on a toujours l'impression qu'ils jouent la finale de la Coupe du Monde ce jour-là. Mais ça marche toujours comme ça, les vétérans. Ça râle tout le temps, ils boivent un coup après et c'est fini. En senior, non, c'est un peu trop chaud. Il y a une préparation.
Ceux-là, ils dorment l'après-midi. Donc les femmes respectent aussi.
Alors le problème des seniors chez le dimanche matin, c'est souvent chez les jeunes, parce que j'en avais beaucoup cette année. Quand ils arrivent, les yeux sont un peu gonflés.
Ah, bah ouais.
Ça aperçoit qu'ils n'ont pas fait une grande nuit.
Mais généralement, sur le terrain, ça va. Hein. Après, ils vont dormir l'après-midi. Voilà. Et...
Du moment qu'ils arrivent sur le terrain.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Alors, le prix, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous rejoindre? Faut déjà s'inscrire. On attend le mois de septembre.
Non, maintenant,
le prix, on en a parlé. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone à joindre?
Alors, le numéro de téléphone, c'est celui de la Miro d'Orsemont. Je ne connais pas par cœur. Sans quoi, je peux donner mon numéro de portable. C'est le 06 79 37 86 16. Donc, appelez-moi nombreux. Je vous expliquerai ce qu'il faut faire et je m'occuperai de vous immédiatement.
D'accord. Okay. Bon, puis ça reste très honnête au niveau donc des tarifs. Hein,
oui, à 90 euros, là, ça va. Et puis chez nous, c'est payable en 10 fois s'ils veulent. Hein.
D'accord.
Oui.
Ah, chez nous aussi. Hein,
il y a des facilités de paiement. Non, parce qu'il y a des jeunes qui sont un peu en difficulté. Donc,
non, mais c'est important pour les parents qui
ne peuvent pas. Et puis dans les petits clubs, la licence, la cotise est très importante parce que c'est grosso modo avec ça qu'on vit. On a très très peu de sponsors. Et les mairies nous délivrent de l'argent, mais c'est pas fantastique. Mais il est vrai que ce sont des villes de 900 habitants, c'est pas non plus des gros budgets au niveau mairie.
Un petit mot, le football des villages, c'est facile de nos jours par rapport aux grands clubs avoisinants qui prennent Bouillet, Saint-Arnoux.
Alors le problème,
c'est le rugby. Hein.
J'ai un avantage, j'ai un président qui me donne tout pouvoir, c'est-à-dire qu'en senior, moi je suis pour le respect de l'arbitre, je suis pour le respect de tout le monde. Donc si quelqu'un arrive au club et commence à avoir soit des mauvais comportements, soit des insultes, je l'expulse manu militari sans problème.
Ça rigole pas.
C'est pas que ça rigole pas, c'est que en plus je suis éducateur pour les enfants au niveau où vous opérez.
Qu'on a reçu il y a quelques semaines d'ailleurs.
Oui, donc il est absolument hors de question qu'on arrive pour commencer à faire sa loi. Un arbitre, il a le même problème qu'un joueur, il peut faire des ratés. Hein. Un joueur qui arrive tout seul devant un but, qui la met au-dessus, alors qu'il n'y a plus de gardien, il n'y a plus rien, on lui dit rien, alors qu'un arbitre, pour une mini-faute, il va se faire incendier. Donc moi je veux respect avant tout.
Très bien, allez, on va du côté de Cernay-la-Ville maintenant, rejoindre notre ami Jean-Pierre, parce que je crois qu'on va connaître le nom du vainqueur des foulées cernaisiennes 2008. Jean-Pierre ?
Oui, Philippe, tu m'en reçois ?
Très bien.
Bon, très bien, parfait, toujours en direct donc de Cernay-la-Ville. Là, c'est pour annoncer donc que les premiers concurrents sont arrivés. Philippe Richard est tout près de moi, apparemment c'est un organisateur heureux, là ce matin il a un grand sourire. Et accompagné donc du coureur qui est arrivé le premier sur cette ligne d'arrivée. Voilà Philippe, alors donc ça a confirmé bien ce que je disais juste à l'instant, vous êtes un organisateur heureux ce matin.
Oui, bien sûr. Nous avons eu pas mal de participants. Le soleil commence à pointer là. Pas de pluie, donc c'était parfait pour les coureurs. Je pense que les coureurs, le temps était assez frais.
C'est pas idéal, ouais. C'est un temps idéal pour courir. Pas trop chaud, le soleil arrive sur les coups de midi, impeccable à l'arrivée pour nous sourire. Voilà. Alors, en tout cas, c'est une course très sympa, super organisation. Les trois quarts dans la forêt, donc j'invite tous les amateurs de jogging et de nature à venir l'année prochaine parce que c'est vraiment paisible et ambiance très très sympa.
On va le représenter
pendant. Oui, et donc en tout cas moi en tant qu'organisateur, je suis content parce que Vincent habite Cernay.
Oui.
Le fait que ce soit le premier arrivé soit de Cernay, ça me fait beaucoup plaisir. Merci Vincent.
Voilà Philippe, tu me reçois toujours.
Oui, mais on aimerait bien connaître le nom de ce vainqueur, Jean-Pierre.
Voilà, donc ainsi se termine cette 8e édition de cette Cernaisienne, ici à Cernay-la-Ville. Je vous redonne l'antenne.
Oui, Jean-Pierre.
Bonne fin d'émission. Oui. T'avais une question à poser, non?
Oui, on voulait simplement connaître donc l'identité du vainqueur, parce qu'on l'a écouté, mais on ne sait pas qui a gagné.
Ben, tu viens de l'avoir, est-ce que pourriez me redonner, si on me demande votre nom au studio?
Virlichy. Vincent Virlichy.
D'accord.
Voilà, c'est Vincent Virlichy, donc, de Cernay-la-Ville, qui a remporté cette 8e édition de la Cernaisienne, Philippe.
Absolument. Donc, il est prophète en son pays, Vincent, hein.
Très bien.
Voilà. Merci.
Bonne émission, Philippe, et bon dimanche à tous.
Merci, voilà, c'est important quand même de connaître le nom des vainqueurs. Oui, actualité sportive particulièrement dense et riche ce matin. C'est tout donc pour le FC Drouet. Vous parliez des valeurs donc de fair play, de tolérance. C'est important, c'est indispensable quand on commence dans
à la base, on le fait bien, parce que je m'occupe des benjamins opérés. Hein. On le fait à la base. J'ai pas un seul enfant opéré qui critique quoi que ce soit. De temps en temps, ils ont
petites en disant oui, l'arbitre n'a pas vu ça, mais on en reste là. C'est, ensuite, c'est ce qu'on nous voit déjà, on nous montre à l'image. On voit des gens, dès l'instant où l'arbitre a sifflé, il a deux joueurs autour de lui qui contestent, qui le poussent, qui voient de temps en temps appuyer sur le coude pour pas qu'il sorte le carton. C'est franchement détestable, quoi. Surtout que les fautes, on les voit même, alors le ralenti est encore plus criant, quoi. On voit des gens qui taclent bientôt à hauteur du nez et qui lèvent les mains en disant mais je l'ai pas touché.
Bah oui.
Et non, c'est un peu désolant. Donc j'essaye à ce qu'on évite ça.
Il y a des travaux d'intérêt généraux, comme dans certains clubs, ça peut arriver ?
Non, je n'en fais pas.
Parce que certains clubs le font, hein, pour justement...
Non. En Benjamin, en senior, bon, c'est pareil, il va un peu lit ou fait, ou quoi que ce soit, il va au vestiaire, et en Benjamin, c'est la même chose. Mm-hmm. Benjamin, s'il ne veut pas faire le travail, ou s'il a su, s'il a ça, c'est, il prend son sac, il s'en va.
Très bien. Eh bien, au moins, c'est clair, hein.
Oui. Et moi, je suis de la génération où ça marchait comme ça.
Ouais,
et
d'accord.
Quand on leur fait face aux gamins, dès l'instant où on est droit et correct, il n'y a aucun problème.
Allez, la pause musicale. On a beaucoup parlé de ballon rond, on a beaucoup parlé de sport, un peu de musique. Et ensuite, eh ben, il sera déjà l'heure donc, de se quitter. Voilà, eh ben, j'ai dit ce matin beaucoup de choses à vous raconter. Alors, on voulait quand même finir Bibi Moreau par un petit mot de vélo. Hein. Jean-Paul aime bien le vélo, Jean-Luc aussi. Hein.
Ouais,
le foot était donc également partie prenante hier avec le Vélo Club d'Elancourt, on en avait parlé il y a 15 jours, pour la petite Lolita. Est-ce qu'on a atteint les 12 000 euros ?
Alors,
on est au reportage hier. Hein,
voilà, avec, on n'avait pas parce que ça s'est fini extrêmement tard hier soir. On en était arrêté, je crois, aux alentours de 6 000 euros. Mais tous les comptes n'avaient pas été faits. Donc,
Elle pourra quand même avoir son chien d'assistance.
Voilà, de toute façon, son chien d'assistance va être acheté. Il n'y a absolument aucun problème.
Ouais, on va rappeler, vous étiez donc partie prenante avec le Vélo Club d'Elancourt.
Voilà, magnifique journée. C'était la première fois qu'on était associé à un autre sport que le football. Donc très belle organisation, impressionnant comme vous avez pu le constater aussi Philippe, hein, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Donc une manifestation qui a duré quand même, qui a commencé aux alentours de 11h et qui a fini 11h hier matin, qui a fini aux alentours de 23h hier soir. Et c'était magnifique. Et puis voir tous ces sportifs
Avec le parrainage d'Eric Boyer. Il faut rappeler qu'il a quitté spécialement le Dauphiné est libéré vendredi et il est rentré chez lui à minuit pour être samedi donc à Elancourt pour cette journée.
Voilà le parrainage d'Éric Boyer et le direct
avec Jalabert.
Ça a été vraiment quelque chose de fantastique à renouveler.
Très bien, le rendez-vous sera pris. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à ce Tribune Foot ce matin, très omnisport. Hein,
merci.
L'actualité sportive était là. Merci Jean-Luc pour le rugby.
Écoute, merci à toi Philippe, et puis je pense à l'année prochaine. Le rendez-vous, tu sais comment on fait. Hein,
voilà, pas de problème. On prend un numéro de téléphone. Moi, j'ai pas de secrétaire, j'appelle directement.
On sera un plaisir de venir te rendre visite.
Très bien. Merci à Patrick.
Merci à vous.
Et puis Jean-Paul et puis Bibi, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci.
Hein, on sera au Pirée. En Yvelines la semaine prochaine. Au Club Aous, on fera une émission spéciale avec la section tennis du Perret. On aura le hand et puis on aura aussi les pronostics hippiques. Voilà, et puis encore bonne fête à tous les papas. Ce matin, on vous laisse en tout cas en compagnie de nos amis de Radio Village. Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.